Je crois que plusieurs, Joël notamment, enfin, Joël surtout, même exclusivement demandé qu'on essaie de donner une bibliographie à chaque fois. Alors, oui, il y a trois ouvrages de référence essentiels pour cette question-là. Tout d'abord, dans la collection Que sais-je, un petit bouquin comme la collection Que sais-je en sort, du doyen Mel, Roger Mel, M-E-L-H, ou H-L, je ne me souviens plus, H-L, je crois. Roger Mel, doyen de la faculté protestante de Strasbourg, qui s'appelle La théologie protestante. Alors, vous avez là, résumé, comme le fait le Que sais-je, n'est-ce pas, sur quelques dizaines de pages, l'essentiel de la théologie protestante actuelle. Alors évidemment, je vous dis tout de suite, ce n'est pas un ouvrage à mettre entre toutes les mains, parce que nous avons là les présupposés de la théologie protestante actuelle qui déraille. Par conséquent, c'est un ouvrage à manier avec précaution. Bon. Ceci étant dit, toujours dans la même collection, vous avez un autre petit bouquin qui s'appelle « L'histoire du protestantisme », qui alors lui est beaucoup plus historique et donne une vue générale. Mais enfin, disons que celui-là, je ne le mets pas officiellement dans cette bibliographie parce qu'il appartient davantage à notre programme d'histoire de l'Église. J'y reviendrai, mais enfin, disons, les deux choses se recoupent. Alors, vous pouvez également le consulter d'une manière avantageuse. Alors, sur le plan sociologique, c'est ce que nous allons faire ce soir, justement, la sociologie du protestantisme, l'ouvrage de base, c'est le livre de Richardot, Le peuple protestant français. Alors, c'est une excellente enquête qui a été effectuée il y a quelques années par... Vous l'avez, vous connaissez ? Si, tu l'avais, je crois. Non, oui, oui. Vous voyez notre marchand du temple, alors, pour vous approvisionner. Tu vois, je te fais de la propagande, c'est bien. Ça fait marcher tes affaires. Tu partageras avec moi un peu. Bon. Alors, sur le plan alors maintenant d'une apologétique protestante un peu vieillotte, un peu sentimentale, mais quand même qui n'est pas dépourvue d'intérêt, vous trouvez le bouquin qui s'appelle Initiation protestante de Durleman aux éditions La Cause à Poissy. Initiation protestante de Durleman. Alors là, c'est vraiment l'apologétique, hein, l'anticatholicisme à fond. Enfin, ceci mis à part, c'est tout de même assez intéressant. Et puis alors, le troisième livre, alors là, vraiment, qui lui vaut vraiment la peine, c'est Coligny ou les sermons imaginaires du doyen Carbonnier. Coligny ou les sermons imaginaires. Tout. Excellents ouvrages que notre marchand du temple se fera un plaisir de vous avoir. Alors, il y en a trois essentiellement parmi ceux que j'ai cités. Donc, Roger Mel, La théologie protestante, aux éditions Que sais-je, Richardot, Le peuple protestant français, et Jean Carbonnier, Coligny ou les sermons imaginaires. Ça va, tout le monde suit ? Ça, c'est pour l'essentiel. Donc, si vous voulez des choses plus approfondies, alors là, on entre déjà dans des choses beaucoup plus importantes et donc beaucoup plus coûteuses également. Bien. Ça va ?
C'est tout dans la même collection ?
Ah non. J'ai plus les références. Durleman, c'est aux éditions La Cause. Coligny, les sermons imaginaires. Je ne me souviens plus qui fait ça. Enfin, ça, vous pourrez le trouver à la SPB, par exemple. Société des publications baptistes, ils vous auront ça facilement. Richardot, le peuple protestant français, ça, c'est un ouvrage de grande diffusion, donc on le trouve facilement. Quant aux deux autres, sur l'histoire du protestantisme et la théologie protestante, c'est aux éditions Que sais-je. Ça, c'est pareil, ça se trouve facilement aussi. Comment? Bon, on peut entrer dans le vif du sujet, ça va? Bien, alors justement, nous allons voir ce soir la sociologie du protestantisme, et du protestantisme français essentiellement. Parce que finalement, c'est celui qui nous intéresse le plus. Jusque maintenant, on a vu le protestantisme en général. Nous allons voir maintenant le protestantisme français. Le protestantisme français est une réalité assez difficile à cerner. Et le bouquin de Richardot en particulier essaye de cerner cette notion-là. Et il a été, en même temps qu'un sondage a été effectué dans le même temps par l'hebdomadaire catholique La Vie, une véritable bombe, parce que les statistiques qui étaient celles officielles de la Fédération protestante de France jusqu'alors recensaient entre 600 000 et 1 million de protestants, 1,2 million maximum. Donc ça représentait environ 1,5 à 2% de la population française. Et deuxièmement, le sondage qui a été effectué a donné un chiffre tout à fait étonnant de 4% de la population française qui se disait proche du protestantisme, ce qui représente le double donc de cette estimation-là, c'est-à-dire 2 millions de protestants en France. Maintenant, quand nous parlons de 2 millions de protestants en France, il faut tout de suite nuancer. Parmi ces protestants-là, 62% n'ont jamais lu la Bible et n'ont pas envie de la lire. À peu près autant ne vont jamais dans un culte ou dans un office religieux, si ce n'est pour les mariages, enterrements et choses semblables. Une grande majorité ne croit pas à la divinité de Jésus. Une petite majorité ne croit pas en Dieu. Alors, vous voyez tout de suite que nous avons vraiment affaire ici à une notion qui est purement sociologique. Alors, ça, ce sont les estimations les plus optimistes de ce qu'est le protestantisme en France. Alors, un protestantisme, comme nous l'avons vu, qu'il faut mettre entre guillemets. Le nombre de gens que l'on peut appeler véritablement protestants et, par conséquent, finalement, comment le définir au juste, de gens qui fréquentent à peu près régulièrement des cultes, ou bien au contraire, des gens qui font profession de foi, d'une foi biblique, parce que c'est la manière d'étendre les choses au maximum. Je crois qu'effectivement, les estimations de la Fédération protestante, qui parle de 600 000 protestants en France, seraient certainement assez voisines de la vérité. Sur cela, évidemment, sur ce nombre-là, il ne faut pas non plus penser qu'il s'agit là de gens qui fréquentent régulièrement des offices ou des cultes. Simplement des gens qui ont une référence tout de même de foi, d'une foi qu'on peut qualifier de foi protestante. Pour la pratique, il en va autrement. Maintenant, donc, si nous voulons faire une approche sociologique du protestantisme, ce sondage montrait qu'il y avait essentiellement des gens qui se sentaient proches du protestantisme sans obligatoirement avoir vraiment des racines protestantes. C'est-à-dire de gens, en fait, qui avaient des sympathies telles pour le protestantisme que finalement, ils s'en sentaient plus ou moins proches, ils s'en sentaient apparentés. Maintenant, le protestantisme français n'est pas non plus facile à cerner dans ses frontières, si j'ose dire. Il est assez facile à repérer dans les grandes églises historiques. Enfin, les grandes églises historiques, il faut mettre tout ça entre guillemets, parce qu'on voit tout de suite comment, avec le nombre de protestants qu'il y a en France, nous avons affaire en réalité à une micro-minorité qui à peu près représente le même nombre que le judaïsme à peu près. Hein. On est à peu près au même nombre. Et donc très très loin derrière la religion majoritaire qui est le catholicisme en France, déjà largué par l'islam, n'est-ce pas ? Par conséquent, vraiment une micro-minorité. Et cette micro-minorité, donc, est représentée, disais-je, par un certain nombre de grandes églises historiques, je mets « grandes » entre guillemets, bien sûr, qui se retrouvent regroupées au sein de la Fédération protestante de France, fondée donc au début du siècle, et qui a pour but de représenter les intérêts du protestantisme face au pouvoir public, de façon à ce que les églises protestantes en France rendent ensemble un meilleur témoignage de Jésus-Christ. Voilà le... ce qu'on appelle, c'est pas l'intitulé, c'est le... Quand dans le truc juridique, si Philippe était là, il nous dirait ça. Je vais comment est-ce qu'on appelle ça le... Quand on dépose des statuts en préfecture, on définit le... Comment, le but de l'association, c'est pas le but, c'est le... L'objet de l'association. L'objet de l'association est donc celui-là. Ça, c'est un extrait des statuts que je vous ai cité. Donc, défendre les intérêts du protestantisme en France face au pouvoir public, de façon à ce que les églises puissent rendre ensemble un meilleur témoignage à Jésus-Christ. La fédération protestante est une fédération d'églises, plutôt d'union d'églises, pour employer un langage évangélique, d'œuvres et de mouvements. Au départ, elle était uniquement une fédération d'union d'églises. Dans les années 60, elle s'est transformée pour accueillir des œuvres et des mouvements, c'est-à-dire des mouvements comme par exemple la Croix Bleue, les éclaireurs unionistes, qui sont devenus Glorious Feu que nous connaissons bien, le CPCV, la CIMAD, qu'est-ce qu'il y a encore des organismes semblables, et donc des œuvres et des mouvements. Donc des organismes qui ne sont pas des églises, mais qui sont issus du protestantisme ou qui se situent dans la mouvance protestante. Alors, sur le plan des unions d'églises, la fédération protestante est constituée finalement des deux grandes églises historiques qui sont dans notre pays et qui, comme les trois mousquetaires, sont quatre. À savoir l'Église réformée de France, qui représente un petit peu la part du lion, qui est donc l'Église calviniste, dont l'origine remonte à la Réforme, et qui est représentée à peu près dans l'ensemble du pays, mais comme nous le verrons, avec des fortunes diverses, dans ce sens qu'il y a un certain nombre de zones d'implantation protestante et d'autres zones où le protestantisme est sous-représenté. Nous avons dit que le protestantisme est de toute façon micro-minoritaire dans tout le pays, mais il y a des régions de France à plus forte proportion, à plus forte représentation protestante que d'autres. Alors les grands centres de l'implantation réformée dans notre pays sont, si l'on exclut l'Alsace et la Lorraine, qui forme une région à part, comme nous allons le voir dans un instant, et où l'Église réformée de France n'est pas représentée. Alors, l'essentiel du protestantisme réformé se situe dans le Midi, dans le sud du pays, mis à part, pour ce qui est de la région Nord, deux régions, la Normandie, et puis bien entendu la région parisienne, pour des raisons que nous verrons justement dans un instant. Dans le Midi, alors, nous avons une implantation beaucoup plus importante. Dans le Dauphiné, Languedoc-Roussillon, Cévennes, bien entendu, le grand réduit qui a tant fait parler de lui, donc au XVIIIe siècle, Montéguerre et Camisard. Et puis alors la région du Poitou, Poitou protestant. Voilà, si vous voulez, en gros, les zones de forte implantation protestante, les zones où l'Église réformée en particulier est représentée, surtout. Il ne reste pratiquement plus de départements français où il n'y ait pas de protestants, mais dans certains départements, il n'existe qu'à l'état de trace, uniquement. Et notre région de Bretagne n'est pas celle qui est la moins représentée, loin s'en faut. Il y a des régions qui sont encore pires. Maintenant, à côté de l'Église réformée de France, dont les statistiques sont assez difficiles à établir d'ailleurs, nous trouvons l'Église luthérienne, qui ne s'appelle pas Église luthérienne, mais qui s'appelle l'Église de la Confession d'Augsbourg, parce que c'est une Église qui se réclame de cette confession qui a été élaborée à Augsbourg, justement par Luther et par Melanchthon, par ceux qui étaient autour de lui. Et aujourd'hui, officiellement, l'Église luthérienne en France s'appelle Église de la Confession d'Augsbourg. Par rapport à l'Église réformée, elle est assez peu représentée en France. On en trouve dans la région parisienne quelques-unes, et surtout dans l'est de la France, notamment dans le pays de Montbéliard, qui est la grande zone d'implantation du luthéranisme en France. Et puis, ça et là, on trouve quelques paroisses, comme ils disent, nouvelles, qui souvent se sont construites sur les ruines d'une église déformée déliquescente. C'est ainsi, par exemple, que dans les grandes zones du protestantisme traditionnel réformé, un certain nombre de paroisses réformées moribondes ont retrouvé une nouvelle vitalité par une injection de sang luthérien, si j'ose dire. Par exemple, dans le Poitou, il y a 2 ou 3 paroisses luthériennes qui sont ainsi nées de cette déliquescence du protestantisme réformé, parce qu'il faut dire d'une manière générale que le luthéranisme est plus vigoureux quand même que l'Église réformée, d'une manière générale, plus évangélique aussi en général, et plus dynamique. Alors voilà pour ce qui, si vous voulez, des grandes églises historiques qui forment la Fédération protestante. Maintenant, il y a une région en France qui est tout à fait à part, c'est l'Alsace-Lorraine. Vous savez que cette région de France, ces deux régions françaises, ont été séparées de la France entre la guerre de 1870 et entre la guerre de 1914-1918. Et pendant ce laps de temps, qui sépare donc 1870 de 1918, des événements importants se sont passés sur le plan religieux en France. Au moment où ces deux provinces ont été rattachées à l'Empire allemand, donc à la suite de la guerre de 1870, le régime des cultes en France était le régime du Concordat qui avait été élaboré par Napoléon Bonaparte, à savoir qu'il y avait en France un certain nombre de cultes qui étaient reconnus officiellement par l'État et que l'État prenait en charge financièrement. Ces cultes étaient bien entendu le culte catholique, le culte protestant réformé et luthérien, c'était le seul qui était pris en compte par les pouvoirs publics. Par exemple, toute l'aile évangélique qui s'était installée en France, par exemple dans le nord de la France, notamment après justement les guerres qui avaient mis fin à l'Empire de Napoléon, eh bien n'était pas prise en compte par le Concordat. Si bien que ces églises se sont été considérées comme des sectes, en quelque sorte. Et puis ensuite, bien entendu, le culte juif. Voilà les 3 cultes qui étaient les cultes légaux en France, reconnus officiellement. Donc, sur ces entrefaites, éclate la guerre de 1870 et l'Alsace-Lorraine sont séparés de la France. 1905, un traumatisme terrible en France, sur le plan religieux. C'est la loi de la séparation de l'Église et de l'État, avec le petit Percon qui entreprend une guerre religieuse dont les catholiques en Bretagne en particulier se souviennent, notamment en ce moment. Et cette loi de 1905 a mis unilatéralement fin au concordat, en sorte que l'Église, plutôt l'État français, la République française, ne reconnaissait plus officiellement aucun culte, en théorie, dans les faits, c'était autre chose. Mais en théorie, tous les cultes se trouvaient égaux et astreints à se prendre en charge eux-mêmes, dans ce sens que l'État ne fournissait plus aucune aide financière à ces cultes. Bon, l'Église s'est accommodée tant bien que mal de cette loi de séparation de l'Église et de l'État, qui a d'ailleurs donné lieu à la Fédération protestante de France. Dans ce contexte-là, la Fédération, plutôt les protestants, ont senti le besoin de s'unir pour, justement, comme nous disions il y a un instant, défendre leurs intérêts face à l'État. Puis, 1918, l'Alsace et la Lorraine redeviennent françaises. Mais les Alsaciens-Lorrains ont accepté donc de redevenir français à une condition. C'était une condition sine qua non. C'est que le principe du concordat, qui était le leur au moment où ils ont été séparés de la France, continue à leur être appliqué. Ils refusaient la loi de la séparation de l'Église et de l'État, qui étaient partout en France ailleurs appliquées. C'était des gens qui avaient un sentiment religieux très profond, un sentiment religieux aussi multitudiniste, nous aurons l'occasion d'y revenir, et qui par conséquent refusaient la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Et le rattachement de l'Alsace-Lorraine à la France a failli échouer sur cette question. Et le gouvernement, qui était pourtant un gouvernement laïque et radical, donc anticlérical et antireligieux, a été obligé d'en passer par là. Et jusqu'à aujourd'hui, les départements donc d'Alsace-Lorraine, les départements qui ont été rattachés à la France en 1918, continuent à vivre sous le régime du Concordat qui a été élaboré par Napoléon Bonaparte. Et c'est la seule région de France où le Concordat continue à être appliqué. Et les Alsaciens lorrains, jusqu'à aujourd'hui, continuent à être fortement attachés à ce Concordat, et il n'est pas question d'y revenir. Il est évident que si le gouvernement français touchait à cela, eh bien, l'Alsace-Lorraine bougerait très fort, même si aujourd'hui il y a une sécularisation importante. Si bien qu'en Alsace-Lorraine, les trois cultes concordataires continuent à être soutenus par l'État, les prêtres catholiques, payés par l'État, choisis par l'évêque, mais avec l'approbation du préfet et du ministre de l'Intérieur. Et même chose pour les pasteurs réformés et luthériens. Pas les pasteurs évangéliques, baptistes ni rien, n'est-ce pas? Ceux-là ne sont pas compris sous le régime du Concordat. Uniquement les luthériens et les réformés. Et puis les rabbins juifs. Oui. Alors, étant donné ce régime particulier, les églises d'Alsace-Lorraine ont leur propre synode, c'est-à-dire ont leur propre mouvement, indépendant de ce qu'ils appellent la France de l'intérieur. Ça, c'est le langage des Alsaciens lorrains. En dehors d'eux, ils appellent ça l'intérieur, hein, la France de l'intérieur. Alors, vous avez donc en France deux églises réformées et deux églises luthériennes. L'église réformée de France, c'est-à-dire l'église réformée de l'intérieur, et l'église réformée d'Alsace-Lorraine, qu'on appelle en abrégé ERAL, église réformée d'Alsace-Lorraine, qui est presque aussi nombreuse que l'église réformée, tant la proportion de protestants est importante en Alsace-Lorraine. Ils sont une minorité dans cette région-là, mais une minorité importante, n'est-ce pas? Il y a par exemple des villages entiers, dans les Vosges, par là, n'est-ce pas, où il n'y a pas un seul catholique. Tout le village est protestant. N'est-ce pas? Et puis, il en va de même pour l'église luthérienne. Vous avez l'église de la confession de France. Et puis, vous avez l'église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine, qu'on appelle en abrégé ECAL. Alors, ces quatre églises, qui finalement n'en forment que deux en réalité, parce qu'au point de vue doctrinal, bien entendu, il n'y a aucune différence. C'est tout simplement le résultat d'une division historique. Hein? Ils ont les mêmes pasteurs, bien sûr. Les pasteurs passent indifféremment de l'une à l'autre. Même parfois à l'intérieur, église réformée, église luthérienne, il y a des pasteurs luthériens qui deviennent réformés et réformés qui deviennent luthériens comme ça, parce qu'ils changent de paroisse, tout simplement. Et puis, que, dans le fond, ça ne leur pose aucun problème, ni théologique, ni quoi que ce soit. Ils sont formés dans les mêmes facultés de théologie. Il y a, en fait, deux instituts de formation théologie pour ces gens-là en France. Un cycle qui dure 5 ans, 2 ou 3 ans à Paris, faculté de théologie de Paris, et puis ensuite 2 ans de complément de formation à Montpellier, une faculté de théologie de Montpellier, qui est valable alors pour les réformés et les luthériens. Ils reçoivent absolument la même formation. Il y a parfois, quand la position luthérienne et la position réformée divergent, les professeurs de théologie exposent les deux positions sans influencer les étudiants. Maintenant, Dans les années 60, la fédération protestante, disais-je, s'est profondément transformée. D'abord pour accueillir les œuvres et mouvements, et d'autre part parce qu'il y avait à ce moment-là des velléités unitaires. Dans ce sens que la fédération protestante qui se défend d'être une église ou d'être une super-église a connu à cette époque-là la tentation de devenir cette super-église. Notamment au niveau des réformés et des luthériens, il y avait ce désir de voir se fondre toutes les composantes de la fédération protestante dans une église évangélique unie de France. C'est-à-dire qu'on voulait refaire, au niveau de la fédération protestante, ce qu'avait été en 1938 l'OPA qui avait été faite par l'église réformée de France sur un certain nombre d'églises. Il faut dire que à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, le protestantisme était encore beaucoup plus divers qu'il ne l'est aujourd'hui. Notamment, il y avait la grande querelle entre orthodoxes et libéraux, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir en histoire de l'Église, et il y avait les églises réformées évangéliques, les églises réformées tout court, il y avait un certain nombre d'églises méthodistes, il y avait un certain nombre d'autres mouvements évangéliques qui étaient implantés en France dans diverses régions et avec une importance qui était très variable. Et en 1938, un certain nombre de pasteurs libéraux au sein de la fédération de l'Église réformée ont amené les différentes églises de cette époque-là à s'unir dans ce qui est devenu aujourd'hui l'Église réformée de France. Les églises évangéliques ont accepté cette manœuvre-là, s'en sont mordus les doigts, parce que, en quelque sorte, le venin de la théologie libérale destructrice les a atteints. Et aujourd'hui, eh bien, c'est toutes ces églises-là, regroupées dans l'Église réformée de France, qui sont en train de s'effilocher et de mourir. Alors donc, la fédération protestante, certains rêvaient au sein de la fédération protestante dans les années 60, 63 en particulier, de renouveler cette manœuvre-là, mais au niveau, cette fois-ci, de la fédération protestante tout entière. Il y avait une autre composante de la fédération protestante à l'époque, était la composante évangélique. La composante évangélique qui est présente dans la fédération protestante depuis sa fondation, et notamment en la personne des baptistes. Les baptistes, qui sont un petit peu une espèce de charnière de la fédération protestante, qui était une petite union d'église par rapport aux quatre grandes unions d'église qui représentaient les églises historiques, mais qui était quand même très présente. D'autre part, il y avait d'autres familles évangéliques qui étaient représentées à l'intérieur de la fédération protestante, notamment l'Union des Églises Libres. L'Union des Églises Libres, c'était en fait des églises réformées, de type calviniste classique, qui, à l'époque du Concordat, n'avaient pas accepté le Concordat, pour des raisons théologiques, non pas parce qu'on n'avait pas voulu d'eux, comme par exemple pour les baptistes, mais tout simplement parce qu'ils estimaient que le système du Concordat n'était pas biblique. Ils dénonçaient le système constantinien et pensaient que l'Église ne pouvait pas être libre si elle était inféodée à l'État. Et ils préféraient donc une Église pauvre, mais libre, qu'une Église riche, mais en quelque sorte soumise à l'influence de l'État. Et la polémique avait été si vive dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu'un certain nombre d'Églises réformées s'étaient séparées et avaient formé une union d'églises indépendantes qu'elles appelaient l'Union des Églises Libres. Par la suite, après le concordat, après la séparation de l'Église de l'État en 1905, évidemment, la raison d'être de ces églises-là n'était plus, puisque finalement, toutes les églises se retrouvaient au même endroit, se retrouvaient être des églises libres, y compris les églises réformées. Néanmoins, les églises libres avaient une orientation beaucoup plus évangélique que les autres églises qui étaient issues du Concordat, si bien qu'elles ont préféré garder leur autonomie. Et en particulier en 1938, elles n'ont pas accepté de faire cette grande unité, n'est-ce pas, qui a été celle des autres églises. Par contre, elles sont entrées dans la Fédération protestante de France, dont elles ont été, avec les baptistes, des membres très influents sur le plan de la représentation évangélique. Mais au moment... il y avait une troisième union d'églises également qui représentait l'aile évangélique de la Fédération protestante. C'est les églises réformées évangéliques indépendantes. C'est-à-dire qu'au sein des églises réformées qui se sont unies en 1938... un certain nombre d'églises à tendance évangélique n'ont pas accepté la théologie libérale. Donc n'ont pas accepté l'union. Et il y a eu donc cassure au sein de l'église réformée
entre un certain nombre d'églises, une minorité d'églises, qui ont préféré garder leur autonomie et ne pas entrer dans le consensus de 1938. Elles ont formé une union d'églises qui s'appelle Église évangélique réformée indépendante, en abrégé EREI. Voilà donc, si vous voulez, la composante évangélique de la Fédération protestante. En 1963, au moment où il a été question de faire l'Église évangélique unie de France, l'aile évangélique s'est opposée à cela pour les mêmes raisons qu'elle s'y était opposée en 1938, parce qu'elle voyait le même danger se profiler. Et la Fédération protestante a été au bord de l'éclatement à cette époque-là. Les églises libres, l'Union des églises libres, a claqué la porte, a quitté la Fédération protestante. Les baptistes et les ERUI ont été sur le point de le faire, mais les esprits avaient quelque peu évolué depuis 1938, et les églises historiques ont décidé de prendre en compte l'opposition des églises évangéliques. Et par conséquent, l'opposition résolue des baptistes et des églises ERUI a bloqué le projet. C'est quand même assez remarquable aussi, de l'écoute et du dialogue qu'il y a à l'intérieur de la Fédération protestante. Les minorités ne sont pas écrasées, mais les minorités sont écoutées, éventuellement prises en compte, jusqu'à faire capoter des projets. Seulement, ces mêmes minorités évangéliques ont dit, écoutez, chers frères, si vous voulez, vous, luthéro-réformés, faire une église évangélique unie, ben nous, nous ne nous y opposons pas, mais faites-la dans le cadre de la Fédération protestante. Unissez-vous entre vous. Donc, on s'est acheminé vers cela, c'est-à-dire une église évangélique unie qui ne regrouperait pas toutes les composantes de la Fédération protestante, mais uniquement les quatre églises luthériennes et réformées. Et pour amorcer en quelque sorte cette fusion, on a créé à l'intérieur de la Fédération protestante un conseil permanent luthéro-réformé que l'on a appelé en abrégé les quatre bureaux, c'est-à-dire des représentants des quatre églises luthériennes et réformées, de façon à élaborer un projet qui permettrait cette fusion des églises, de ces quatre églises, dans une église évangélique unie de France. En fait, le projet a capoté. Même entre luthériens et réformés, qui pourtant étaient si proches, eh bien, l'union n'a pas pu se faire. Ce qui montre à la fois, si vous voulez, la diversité et l'unité du protestantisme. N'est-ce pas ? Même dans des positions aussi proches que celle-là. Et l'opposition venait essentiellement des Alsaciens lorrains. Les Alsaciens lorrains, tant réformés que luthériens d'ailleurs, qui regardaient avec suspicion les Français de l'intérieur, comme ils disaient. Enfin, les protestants français de l'intérieur. Et pas toujours sans raison d'ailleurs. Alors, on en est aujourd'hui dans cette situation, la Fédération protestante, où le Conseil permanent luthéro-réformé, puisqu'il existait, a continué à fonctionner, dans ce sens que les luthériens et les réformés ont entre eux un certain nombre d'activités communes auxquelles ne participent pas les autres membres de la Fédération protestante. C'est le cas notamment pour ce qui est du dialogue œcuménique. On sait l'extrême réticence que les évangéliques ont à l'endroit du dialogue œcuménique. Et la Fédération protestante, par exemple, en tant que telle, à cause de cette opposition des évangéliques qui la composent, enfin qui représentent une de ses composantes en tout cas, n'ont pas officiellement de contact avec le catholicisme. Voyez-vous, tout est en nuance et en subtilité. Par contre, quatre églises de la Fédération protestante, donc les quatre églises luthériennes et réformées, ont des relations avec le catholicisme. Si bien que elles délèguent à elles quatre leur pouvoir à quelqu'un qui les représente pour dialoguer avec le catholicisme, mais non pas pour le compte de la Fédération protestante, mais uniquement pour le compte du Conseil permanent luthéro-réformé. Et c'est presque uniquement sa raison d'être aujourd'hui, le dialogue œcuménique. Si bien que ce n'est pas la Fédération protestante qui dialogue avec le catholicisme, mais uniquement les quatre bureaux. Vous voyez, ça c'est vraiment l'art protestant de jongler avec les nuances, mais en même temps, ça permet de, si vous voulez, de concilier tout le monde, de concilier toutes les tendances, et puis finalement, ça fonctionne à merveille comme ça.
Alors, le représentant actuel du Conseil permanent luthéro-réformé, le pasteur Nicolas, Albert Nicolas, qui engage par conséquent les quatre églises, mais uniquement elle. Albert Nicolas, délégué du Conseil permanent luthéro-réformé pour les relations œcuméniques. Donc, si vous voulez, c'est l'alter ego de Giraud, mais ce n'est pas tout à fait l'alter ego, parce que Giraud représente l'ensemble du catholicisme, tandis que Nicolas représente une partie du protestantisme, une partie de la fédération protestante seulement. Il en va de même au sein du Conseil œcuménique, donc à l'échelon mondial, si vous voulez. Seuls les quatre bureaux de la Fédération protestante sont représentés au Conseil œcuménique, mais la Fédération protestante en tant que telle n'est pas représentée. Bon, les quatre bureaux, dans le cas de la Fédération protestante, vont parfois publier des textes qui seront uniquement le reflet de l'émanation des quatre bureaux et qui n'engageront pas la Fédération protestante tout entière. Par contre, parfois, le Conseil de la Fédération, lui, va émettre des textes qui sont l'émanation de la Fédération protestante tout entière. Alors, il est évident que le pauvre public français ne peut pas se retrouver dans cette jungle-là. Hein, ça, c'est pas possible. Pour lui, c'est le protestantisme. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir que la plupart des Français n'ont jamais entendu parler de la Fédération protestante. Ils ne savent pas ce que c'est. Pour eux, il y a les protestants, point. C'est tout. En dehors de ça, je ne cherche pas à comprendre davantage. Bon, la Fédération protestante va-t-elle publier un texte sur l'avortement? C'est les protestants qui se sont prononcés. On ne fait pas attention de savoir si c'est seulement les quatre bureaux ou pas. Non, c'est les protestants. Point final. Hein. D'ailleurs, même au niveau, évidemment, de la presse ou des médias ou des journalistes, etc., la même réaction existe. Les journalistes ne font pas l'effort d'entrer dans les arcanes de la Fédération protestante et puis c'est les protestants qui ont parlé. Point final. Hein. Alors, c'est parfois un peu gênant. C'est parfois un peu agaçant. Enfin, c'est comme ça. J'ai de faire avec. Alors, donc, voilà pour ce qui est, si vous voulez, des églises qui représentent la Fédération protestante. Alors, comment fonctionne la Fédération protestante? Eh bien, c'est un dialogue, ce n'est pas une super-église, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une hiérarchie. Et ça, il faut souligner très fortement. C'est une fédération. C'est-à-dire que le pouvoir appartient à la base. Et les instances nationales n'ont le pouvoir que la base, n'ont comme pouvoir que ce que la base veut bien leur déléguer, elle veut bien le représenter. Si bien qu'il faut toujours qu'il y ait un dialogue permanent avec la base, ce qui fait qu'il y a une certaine lourdeur, d'ailleurs, une certaine lenteur dans les rouages de la Fédération protestante, parce qu'il faut qu'il y ait le va-et-vient constant qui se fasse. Par exemple, un texte comme le BEM, le document Baptême Eucharistie Ministère, qui est actuellement étudié sur le plan œcuménique, eh bien, les instances catholiques souhaitaient que les différentes églises se prononcent sur ce texte d'ici 1986, si ma mémoire est bonne, ou même 85. Et les instances des quatre bureaux de la Fédération protestante leur ont répondu que c'est matériellement impossible parce que le protestantisme n'était pas l'église catholique. Et si au niveau de l'Église catholique, il suffisait d'une ou deux réunions des évêques pour se prononcer sur ce plan-là, sur ce point-là, sur ce texte-là, il n'en allait pas de même dans la Fédération protestante, mais il y avait des navettes qui faisaient que l'étude de ce texte prendrait un certain nombre d'années. Voilà. Alors, c'est une bonne chose, entre nous, soit dit, parce que ça, en même temps, il y a une espèce de force d'inertie qui est là, qui fait que c'est pas facile à bouger tout ça, quoi. Alors, chaque église élit un certain nombre de délégués au prorata de son importance dans ce qu'on appelle le conseil de la fédération protestante, qui est, si vous voulez, le parlement de la fédération, en gros. Lequel conseil est non seulement composé des délégués des églises, les représentants des églises, qui sont à peu près tous des parisiens, parce que pour des raisons géographiques et de commodité, c'est plus facile de les rassembler. Et le Conseil de la Fédération protestante élit un bureau, qui est l'exécutif, si vous voulez, qui lui-même élit un président, un vice-président, trésorier, etc., des vice-présidents, un trésorier, secrétaire, etc. Maintenant, tous les quatre ans se rassemble une assemblée générale, comme celle qui a eu lieu à La Rochelle en novembre dernier, avec des délégués de toutes les églises qui définit, si vous voulez, les grandes lignes du travail de la Fédération protestante pour les 4 ans à venir. Alors c'est tout à fait intéressant parce que le travail de cette Assemblée générale est uniquement consultatif. L'Assemblée générale n'a aucun pouvoir. Tout à fait cocasse d'ailleurs dans ces assemblées générales où l'on discute gravement de problèmes, où l'on refait le monde à chaque fois. Et puis finalement, on entend quelqu'un dire tout d'un coup, ben, vous savez, de toute façon, ce que vous dites là, ça n'a pas tellement d'importance parce que vous n'avez que voix délibérative ou consultative, vous n'avez pas voix délibérative. C'est le conseil qui a tous les pouvoirs. Alors vous avez des gens qui sont tout assis, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait là alors? En fait, ce n'est pas aussi inutile que ça paraît parce que dans le fond, les instances de la Fédération protestante sont tellement démocratiques qu'on prend en compte les vœux. Et le Conseil fait vraiment un effort extrêmement sérieux pour faire passer dans les faits les vœux qui sont formulés par l'Assemblée générale. Et là, nous avons un type vraiment de démocratie directe qui est sans égal dans les États, les pouvoirs politiques. Peut-être ça se rapprocherait assez, si vous voulez, de l'administration des cantons suisses. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, parce que le protestantisme a tellement marqué la Suisse que, certainement, que même sur le plan des institutions politiques, eh bien, il y a pu y avoir une influence, et il y a une influence certaine du protestantisme en ce qui concerne les institutions suisses, qui sont parmi les plus démocratiques du monde. D'ailleurs, sur le plan sociologique, il est tout à fait intéressant de voir que la démocratie est une idée qui est vraiment protestante. Les États vraiment démocrates, les pays vraiment démocrates, sont les pays protestants. Vraiment démocrate. Et c'est pourquoi, finalement, la démocratie en France n'est pas un pays protestant, n'est pas vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans les mœurs, n'est-ce pas ? La démocratie est moins réelle en France qu'elle ne l'est dans les pays anglo-saxons, par exemple, dans les pays protestants, ça c'est sûr. Et ça à cause de l'arrière-plan catholique, essentiellement. Parce que, dans le fond, la démocratie, c'est vraiment la pensée de l'esprit protestant, en fond. Enfin, on y reviendra là-dessus, si vous voulez. Mais revenons à la Fédération protestante, maintenant. Dans ses rouages et dans ses institutions, cette fédération comprend également des œuvres et mouvements qui envoient aussi des délégués au Conseil et, partant, à l'Assemblée générale. Et lesquels peuvent, évidemment, aussi intervenir dans toutes sortes de domaines. La Fédération protestante a un service juridique également qui défend les intérêts. Si une église particulière a des problèmes avec la justice, elle peut demander des conseils ou même éventuellement l'assistance d'un certain nombre de juristes qui sont ceux de la Fédération protestante. Cette commission est présidée par le doyen Carbonnier, qui est le meilleur juriste de France, entre parenthèses. Il y a également un service de presse, le BIP, bulletin d'information protestante, qui s'occupe de faire les relations justement avec les médias, et puis des services d'intervention auprès des pouvoirs publics, par exemple en faveur de pasteurs qui pourraient être inquiétés ou de protestants qui pourraient être inquiétés, un service d'aumônerie aux armées, dans les prisons et dans les hôpitaux. Alors, ces services sont communs. Ce sont des services de la Fédération protestante. Et si nous disions tout à l'heure que l'État français ne reconnaît pas officiellement de culte, en fait, il est certain que les cultes qui étaient concordataires occupent en France une position privilégiée. Et l'État français traite avec le protestantisme par l'intermédiaire de la Fédération protestante, qui est son interlocuteur. Le président de la Fédération protestante n'a qu'à décrocher le téléphone pour demander une entrevue avec le président de la République. Il est fort probable que cette entrevue lui sera accordée. Il suffit de décrocher le téléphone pour avoir contact avec tel ou tel ministre, c'est pas ? Quand il intervient au nom du protestantisme français. Alors c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. D'autre part, les cultes qui étaient autrefois concordataires ont une sorte d'officialisation de fait dans les faits. Leur officialisation, qui était celle de l'époque du Concordat, continue à se perpétrer. Mais uniquement pour l'État. L'État ne connaît du protestantisme que la Fédération protestante de France. Point. Il ne connaît pas les églises particulières qui font partie de la Fédération protestante de France. Pour lui, l'église réformée, ça n'existe pas. L'église luthérienne, ça n'existe pas. L'église baptiste, ça n'existe pas. Il y a la Fédération protestante de France. Point. Alors ça, c'est très important pour justement comprendre comment l'État réagit justement vis-à-vis de nous tous, finalement. Maintenant, ceci étant dit, il est bien évident que le protestantisme français dépasse le cadre de la Fédération protestante de France. Ah, j'ai oublié évidemment de citer quelques-uns des plus beaux fleurons de la Fédération protestante qui sont entrés ces derniers temps. Je ne parle pas de nous seulement, bien sûr, mais les gitans en particulier qui sont entrés dans, en même temps que nous, c'est-à-dire dans les années 75-76, ainsi que la petite église apostolique qui elle a un statut spécial, parce que pour pouvoir être une église, une union d'églises, il faut avoir un minimum de 12 postes pastoraux. Et l'église apostolique, quand elle a postulé dans la Fédération protestante de France dans les années 60, n'avait que 8 postes pastoraux. Mais c'est encore une fois l'esprit démocratique de la Fédération protestante. On a fait un statut spécial pour l'église apostolique. Alors l'église apostolique n'avait pas voix délibérative au Conseil de la Fédération, mais avait uniquement voix consultative. Par contre, elle était membre à part entière du Conseil de la Fédération, pleinement représentée au Conseil de la Fédération. Alors maintenant, donc, il y a cette évolution à laquelle nous assistons actuellement. Depuis l'entrée d'un certain nombre d'églises isolées dont nous avons été les pionniers dans ce domaine, qui prendront en charge un certain nombre de responsabilités qui étaient celles du Conseil de la Fédération jusqu'alors, et qui, sur le plan local, représenteront les intérêts du protestantisme devant les autorités locales. Alors on ne sait pas trop encore comment ça va évoluer tout ça, mais c'est la grande réforme qui est dans l'air actuellement au sein de la Fédération protestante. Maintenant, je disais tout à l'heure, le protestantisme dépasse le cadre de la Fédération protestante, soit parce qu'il y a des églises qui ne souhaitent pas faire partie de la Fédération protestante, soit tout simplement parce que ce sont des églises qui sont nées en dehors d'elles et qui n'ont jamais, en fait, se sont jamais posé la question, finalement, de leur appartenance à la Fédération protestante. Alors, on trouve parmi ces églises-là essentiellement des églises évangéliques. Nous avons cité tout à l'heure les églises libres qui ont quitté la Fédération protestante craignant justement de voir une espèce de grand magma se mettre en place et qui maintenant regrettent ce geste un petit peu rapide qu'elles ont fait. Nous avons également toute l'aile, évidemment, des assemblées de Dieu, toute l'aile pentecôtiste du protestantisme, tout simplement parce que lui est né en dehors de la Fédération protestante et ne s'est pas voulu protestant, n'a pas reconnu ses racines protestantes et encore aujourd'hui renie cette parenté protestante, cette appartenance au protestantisme qui est pourtant le sien de fait. Et qui reste, aussi paradoxalement que ça puisse être, ça puisse paraître farouchement anti-protestant. Bon, nous avons aussi des églises du même type, mais cette fois-ci non charismatiques, qui, pour des raisons semblables, en quelque sorte, refusent également d'appartenir à la Fédération protestante. C'est en particulier toutes les églises dites des frères, qui sont issues des mouvements de réveil de la fin du siècle dernier, qui sont en France assez nombreuses, finalement, mais assez méconnues parce qu'assez discrètes, et que l'on appelle... les églises des frères, les assemblées de frères, plus exactement, ils ne veulent pas employer le mot église, qui sont issus du réveil d'Arbiste, parmi lesquels vous avez Georges Müller et tout ça, enfin les grands noms de ces réveils-là, qui ont souvent assez peu de structures, ce qui fait que précisément, elles n'apparaissent pas comme une église structurée, organisée. Et qui sont farouchement jalouses de leur indépendance, qui sont très congrégationalistes, et par conséquent refusent d'appartenir à une union d'église quelle qu'elle soit. Non, en général, que des relations fraternelles entre elles, bien qu'elles aient une structure finalement interne très solide. Et ces églises sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les frères larges, et puis les frères étroits. En général, si je me permets cette petite plaisanterie, les frères larges sont assez étroits et les frères étroits sont encore plus étroits. enfin, ce n'est pas toujours vrai. Surtout les frères larges se sont pas mal élargis ces temps-ci, un peu trop d'ailleurs par moment. Ce sont des évangéliques non charismatiques. Leurs assemblées sont organisées sans pasteur, sans responsable attitré, uniquement sous la direction d'anciens. Les cultes se passent dans un silence où soudain chacun attend l'inspiration de l'esprit. Et si quelqu'un a une inspiration de l'esprit, il se lève et il prêche. Alors c'est assez cocasse parfois, parce que vous avez des gens qui disent un peu n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de contrôle en fait, quoi. Alors les églises, la différence, comment ? Non charismatique, farouchement anti-charismatique en général, oui. Alors, les églises de frères larges sont ainsi nommées parce qu'elles n'ont pas accepté les oukases de Darby, qui excommuniait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, et qui interdisait ceux qui étaient membres de sa communion d'avoir des contacts avec ceux-là. Alors, si on avait malheur d'avoir contact avec un individu ou une église que Darby avait excommunié, on se trouvait excommunié par Darby, etc. Si bien qu'à la fin de sa vie, j'exagère à peine, Darby était presque tout seul. Il avait excommunié tout le monde. Il était tout... Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, il est certain qu'il y avait un petit nombre d'églises autour de lui qui ont formé les frères étroits, les autres étant les frères larges. Maintenant, ces clivages ont un peu diminué. Les frères étroits, les frères larges se fréquentent plus ou moins. Vous avez encore, surtout en Suisse, des frères étroits qui sont très... qui ont la dent très dure. Surtout en Suisse. Ça se passe comme ça. Alors, les frères, vous en trouvez à peu près dans toute la France, les églises de frères. Vous avez aussi une autre union d'églises qui ne fait pas partie de la fédération protestante, ce sont les églises ménonites. Nous en avons déjà parlé quand nous parlions des anabaptistes, ce sont les successeurs des anabaptistes. Et en tant que donc successeurs de ces anabaptistes, ils ont vécu très longtemps dans un climat de persécution. Et c'est pourquoi les ménonites, les communautés ménonites, qui étaient des communautés au sens propre du terme, c'est-à-dire des communautés de vie au départ, des communautés de vie agricoles, se sont implantées le long des frontières, de façon à ce que s'il y avait des troubles, des persécutions, ils pouvaient facilement passer dans le pays voisin. Et puis, vice-versa, si jamais dans le pays voisin il y avait des troubles politiques, hop, ils repassaient dans le premier pays où ils avaient été chassés en tant que ça se calme, comme ça. Alors c'est pourquoi en France, les communautés ménonites sont situées dans l'Est, le long de la frontière allemande et de la frontière suisse en particulier, notamment dans le Jura. Pays Montbéliard et Jura. On trouve là un certain nombre de communautés ménonites, mais qui n'ont plus rien de communautaire. La spécificité des ménonites, qui était tout à fait intéressante et tout à fait sympathique, était double, à deux niveaux. D'une part, une insistance très forte sur la vie communautaire, et d'autre part, sur la non-violence, qui se traduisait par l'objection de conscience, le refus de porter les armes. Et souvent, s'ils étaient persécutés, c'était pour cette deuxième raison. Aujourd'hui, ils ont à peu près abandonné l'une comme l'autre, à la fois la vie communautaire et l'objection de conscience, ce qui fait que finalement, ce sont des baptistes à peu près comme les autres, avec comme différence qu'ils ne sont pas partis de la fédération protestante. Maintenant, les baptistes de la fédération protestante ont connu aussi des fortunes diverses. En effet, dans les années 30, entre les deux guerres plus exactement, au moment où le débat faisait rage à l'intérieur du protestantisme français, entretenant de l'orthodoxie, comme on appelait alors, et du libéralisme, ont connu aussi certain nombre de tendances libérales théologiques qui niaient l'inspiration de l'Écriture sainte. Et dans ces années-là, entre les deux guerres, une division a eu lieu dans la Fédération Baptiste de France. Un certain nombre de pasteurs ont estimé que l'évolution de leurs collègues en faveur du libéralisme était inquiétante et ils ont rompu pour créer un noyau dur baptiste qu'ils ont appelé l'Association Baptiste de France, à différencier de la Fédération Baptiste de France. Voyez-vous, tout ça c'est très subtil. Alors, ça fait que le mouvement baptiste s'est divisé en deux, entre le Nord et le Sud. Le Nord, c'était la Fédération Baptiste, implantée dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, etc., et un peu la région parisienne. Et puis, l'association qui se recrute dans le sud, c'est-à-dire l'Aquitaine, la région de Bordeaux, etc., Toulouse, la région toulousaine, et puis la Côte d'Azur, la région de Nice, etc., essentiellement, et quelques assemblées dans l'est de la France. Alors, la Fédération protestante fait partie de la Fédération baptiste fait partie de la Fédération protestante, mais l'association baptiste ne fait pas partie de la Fédération protestante. Puis enfin, vous avez maintenant un certain nombre de mouvements nouveaux qui sont nés, par exemple, autour des instituts bibliques. Le mouvement des instituts bibliques est un mouvement qui a pris naissance également entre les deux guerres en réaction contre le libéralisme. En effet, entre les deux guerres, au début du siècle, et surtout entre les deux guerres, les facultés de théologie protestante, qui étaient plus nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, parce qu'il y avait, au moins quatre facultés protestantes, il y avait la faculté de théologie de Paris, Montpellier, donc les deux qui existent encore, mais il y avait également une faculté de théologie à Montauban, et puis il y a un institut de théologie à Lyon, et puis la faculté de Strasbourg, qui existe toujours, mais qui elle aussi est concordataire, et donc une faculté d'État, où les professeurs sont appointés par l'État, payés par l'État, les examens sont contrôlés par l'État, les examens de théologie sont contrôlés par l'État. Même chose pour ce qui concerne la faculté de théologie catholique de Strasbourg, elle est aussi faculté d'État. Et à cette époque-là, donc, ces instituts de théologie viraient très nettement en faveur du libéralisme. Et un certain nombre de gens qui étaient fidèles à la parole de Dieu ont éprouvé le besoin de réagir contre ce mouvement qui faisait que les pasteurs étaient de plus en plus libéraux et de moins en moins bibliques par conséquent. Et un certain nombre de réveils ont eu lieu dans le protestantisme à cette période-là, notamment ce qu'on appelait le réveil de la Drôme, les brigadiers de la Drôme, cinq pasteurs libéraux qui ont fait une expérience réelle de conversion et qui ont connu un réveil qui les a amenés à unir leurs efforts pour prêcher ce réveil qu'ils avaient vécu personnellement, au niveau de leur vie personnelle, dans le protestantisme éteint qui était le leur, donc entre les deux guerres. Et ils ont commencé donc dans la région où ils étaient implantés, qui était la région de la Drôme, ce qui fait qu'on les appelait, on appelait ça le réveil de la Drôme, dans la région de Dieulefy en particulier, l'Ardèche. Et puis de là, donc, ils ont été amenés à intervenir à peu près partout en France, prêchant le réveil dans toutes ces régions-là. Et sous la dynamique de ce réveil de la Drôme, un certain nombre de gens qui avaient été saisis par le réveil ont éprouvé le besoin d'approfondir leur connaissance biblique et se sont rendus compte que le protestantisme était en train de s'éteindre par manque de connaissance biblique. Alors, les pasteurs n'étaient souvent plus capables de donner un enseignement biblique. Alors, on a créé des instituts bibliques, c'est-à-dire des endroits, un petit peu comme, si vous voulez, comme le centre missionnaire de Carré, toute proportion gardée, où l'on allait un temps pour étudier la Bible et ensuite les chrétiens qui étaient venus se former dans ces endroits-là, retournaient dans leur travail pour être des meilleurs témoins avec une connaissance biblique plus approfondie. Et ces instituts se sont créés, par exemple, à La Morlaix, à Nogent-sur-Marne, dans la région parisienne, ensuite en Suisse, à Emmaüs, à l'Institut d'Emmaüs à côté de Lausanne. On a trouvé aussi un à Bâle, c'était, enfin bref, dans différents endroits. Et ces instituts bibliques, qui étaient le fruit des réveils, où on enseignait donc la Bible d'une manière très orthodoxe, très fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu, ont vu très rapidement un certain nombre de gens venir se former, non seulement comme ça pour être des meilleurs témoins là où ils étaient, mais également pour le pastorat, parce qu'ils étaient déçus de l'enseignement qu'ils avaient trouvé dans les facultés de théologie officielles, et ils venaient donc demander un enseignement biblique pour le pastorat. Et ces instituts bibliques ont été amenés ensuite à sortir un petit peu, si vous voulez, de leur vocation de départ, et à se mettre à former des pasteurs. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont essentiellement destinés à former des pasteurs. Alors, il est évident que s'est créé à ce moment-là, au sein du protestantisme français, un espèce de clivage entre les pasteurs officiels, ceux qui avaient le diplôme de théologie, reconnu par les instances officielles du protestantisme, et puis, en quelque sorte, des pasteurs au rabais, qui n'avaient pas une formation aussi poussée que les autres, et donc étaient quelque peu méprisés par leurs collègues. En général, c'était ceux-là qui étaient évidemment les plus dynamiques, et qui avaient le plus de succès. Alors, se sentant un peu marginalisés, ces pasteurs, en général, ont évité de militer ou même d'intervenir au sein des églises officielles, qui d'ailleurs les refusaient, parce qu'ils n'étaient pas des pasteurs à part entière, n'ayant pas le diplôme officiel. Si bien qu'ils ont commencé à prêcher l'évangile à côté des églises existantes et créer donc des églises nouvelles. Ces églises nouvelles n'étaient pas... Certaines d'entre elles se sont rattachées aux églises existantes. Par exemple, ici en Bretagne, un certain nombre d'églises réformées ont été créées de cette manière-là, par des mouvements qui étaient issus des instituts bibliques. Et d'autres, tout simplement, n'ont pas voulu se rattacher à l'église réformée, en fait. C'était l'église réformée à laquelle on faisait appel en général. Et sont restées indépendantes. Elles n'ont pas voulu non plus se rattacher à des églises évangéliques existantes. Certaines d'entre elles l'ont fait. Par exemple, pas mal d'églises baptistes sont nées de cette manière-là. L'église se crée d'une manière un peu spontanée sous la direction d'un pasteur qui était sorti d'un institut biblique. Puis ensuite, quand cette église était devenue majeure, elle demandait son rattachement, par exemple, à la Fédération baptiste. Beaucoup d'églises, actuellement, continuent à suivre cette filière-là. Par exemple, l'église d'Argenteuil. C'est tout à fait typique de cette évolution-là. Bien. Mais d'autres sont restés autonomes et ont voulu simplement garder des liens fraternels avec les instituts bibliques qui les avaient fondés. Si bien que, finalement, les instituts bibliques se sont trouvés à l'origine de nouveaux mouvements religieux, de nouvelles dénominations. C'est le cas, par exemple, de France Mission, qui est un mouvement issu, justement, de l'institut biblique de Nogent-sur-Marne, que dirige le pasteur Jules-Marcel Nicole, avec lequel j'ai travaillé pour la traduction de la Bible La Colombe. Alors, voilà, si vous voulez, en gros, comment se présente le protestantisme. Il faut ajouter maintenant un certain nombre de petites unions d'églises qui groupent deux ou trois postes pastoraux, tout au plus. C'est le cas, par exemple, des méthodistes, qui ne sont plus qu'en France l'ombre d'eux-mêmes, hein, l'ombre de ceux qui sont, par exemple, dans les pays anglo-saxons, mais qui continue à occuper un certain nombre de petits, d'églises parfois assez florissantes, mais très peu nombreuses. C'est le cas également d'un certain nombre de groupes baptistes indépendants, par exemple l'union des églises qui tourne autour de l'église du Tabernacle de Paris, qui est une église baptiste, mais qui ne fait pas partie d'aucune union des églises baptistes, et qui a deux ou trois églises qui gravitent autour d'elle dans la région parisienne, avec une église assez importante, très importante même, à Paris même. Maintenant, on trouve à côté de cela un mouvement aussi extrêmement original, assez pittoresque, assez folklorique, l'Armée du Salut. L'Armée du Salut qui a été fondée par un méthodiste anglais au siècle dernier pour effectuer un travail d'évangélisation et en même temps qu'un travail social dans les bas-fonds de Londres, dans les banlieues ouvrières de Londres, au milieu de gens qui vivaient dans la misère, en même temps dans l'alcoolisme, dans la délinquance, dans la licence sexuelle, etc. Et ce méthodiste anglais, qui s'appelait William Booth, avec sa femme, Catherine Booth, sont allés dans ces bas-fonds de Londres. Avec ce slogan, donc, « Soupe, savon, salut ». C'était les trois composantes, et c'est toujours les trois composantes de l'armée du salut. Soupe, donc, pour voir aux besoins de ces gens-là, qui vivaient dans la misère la plus noire sur le plan matériel. Savon, parce qu'ils étaient souvent crasseux. Enfin, il fallait leur apprendre les règles élémentaires de l'hygiène. Salut, bon, ben, la prédication de l'évangile. Et alors là, au XIXe siècle, en Angleterre, il y a eu un véritable réveil sous l'impulsion de l'Armée du Salut, avec vraiment des manifestations charismatiques. Booth avait créé ce qu'il appelait des boutiques à salut. Il louait des échoppes de commerçants quelconques, qui étaient grands comme le quart de cette pièce-là. Et puis, derrière le comptoir, il mettait une grande croix, il mettait quelques chaises, il invitait les ivrognes de passage à rentrer, etc. Il les nourrissait, il leur donnait une soupe à manger, et les clochards, etc. Puis ensuite, il leur prêchait l'évangile, etc. Puis il y a des gens qui se convertissaient comme ça. Et ensuite, qui militaient donc dans ce qu'il avait très vite appelé l'armée du salut. Il avait organisé ça sur le modèle d'une armée, une véritable armée, dont il s'était bombardé général. Alors, il y avait les grades, il y a toujours des grades aujourd'hui qui correspondent aux grades de l'armée anglaise. Alors, vous avez des majors, vous avez des colonels, vous avez des capitaines, vous avez des lieutenants, et puis vous avez des simples soldats qui sont là, qui sont les nouveaux convertis, qui deviennent immédiatement des militants. Alors Booth n'avait pas voulu être une église ni simplement un mouvement d'évangélisation. C'est pourquoi, par exemple, il refusait la pratique des sacrements. Les salutistes jusqu'à aujourd'hui ne baptisent personne et ne donnent pas la Sainte-Cène. Il se contente de prêcher l'évangile et puis d'aider les gens sur le plan social. Ils ont un uniforme, assez pittoresque d'ailleurs, qui date un petit peu du siècle dernier. Vous avez sans doute vu les beaux chapeaux de ces dames, les chapeaux Alléluia, comme ils appellent. Il y a marqué Alléluia dessus d'ailleurs. Et puis alors l'insigne, ils ont un drapeau avec une croix, qui s'appelle « Sang et feu », le sang de la croix, puis le feu du Saint-Esprit, etc. Alors il Booth défilait dans les rues de Londres, comme ça, avec ses troupes en ordre militaire, avec bannière déployée, la bannière sang et feu, en grand uniforme, et puis ils avaient la fanfare qui était là, les fanfares de l'armée du salut sont célèbres jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, ça fait un peu sourire aujourd'hui, mais au XIXe siècle, c'est sûr que ça avait un certain impact. C'était pas aussi folklorique que ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait un peu drôle quand même. Mais il y a encore des salutistes en France. Il y a des postes de l'armée du salut dans différentes villes, à Paris en particulier, bien sûr. Et ça fait partie un peu du paysage parisien. En général, ils sont assez bien perçus par la population parce qu'on les considère comme des gens qui font un travail social souvent très valable. Par exemple, ils ont une péniche à Paris où ils accueillent les clochards. Les clochards peuvent trouver là un gîte pour la nuit. Ils ont différents foyers pour des buveurs, pour des prostituées, pour des femmes seules, battues, etc. Ils accueillent, ils s'occupent d'eux, etc. Enfin, ils font un travail tout à fait valable à ce niveau-là. Et au moment de Noël, souvent dans les carrefours parisiens, il y a la marmite de l'armée du salut. Vous avez quelques salutistes qui sont en train de jouer du trombone devant une marmite, et puis les gens mettent le robot pour secourir les clochards, etc. Alors, évidemment, certains principes avec lesquels on peut discuter, notamment de demander de l'argent aux inconvertis, mais enfin, certain que c'est un mouvement évangélique qui fait partie du protestantisme sans faire partie de la fédération protestante d'une manière officielle. Alors voilà, si vous voulez, en gros, le panorama du protestantisme français, tel qu'il se présente de l'intérieur. Il faudrait peut-être ajouter un certain nombre de petits mouvements, alors là, dont j'ignore même l'existence, peut-être. Certains naissent, certains disparaissent, etc. C'est très très mouvant. C'est très très mouvant. Finalement, c'est un peu normal que ça soit comme ça parce que c'est la vie. La vie, c'est quelque chose de mouvant comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez rapidement des questions à poser?
Les Ménonites s'apparentaient aux Quakers?
Ah non non non, aux Baptistes. C'est des Baptistes. C'est les ancêtres des Baptistes.
Ils ont un peu la même.
Ah non 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 non, ils ont des pasteurs. Ils ont non non. C'est les frères.
Les frères,
plutôt les frères, oui. Oui. Avec les Quakers, quand même, une différence, c'est que les Quakers, ils se taisent tout du long, tandis que les frères, eux, ils attendent l'inspiration, ils se taisent pour attendre l'inspiration. Quand quelqu'un a une inspiration, il parle.
Ils sont aussi intimitaristes.
Les frères? Ah, les Quakers, oui. Les Quakers, oui. Mais oui. Oui, mais enfin, ça n'implique pas obligatoirement une filiation, c'est tout simplement l'influence du sermon sur la montagne. Que ça implique une filiation historique entre les deux mouvements.
Il y a pas de relation entre
les Ménonites et les Quakers. Si, si, quand même, si, il y en a eu.
Parce qu'il y en avait en France, il y en avait en Angleterre,
ouais,
parce
que
Muller, Darby était donc anglais.
Oui, oui.
Donc il y avait quand même une.
Si, si, il y avait des relations. Il y avait des relations. Ah non, non, on ne peut pas mettre les adventistes. Ah non, alors là, c'est les ancêtres des témoins de Jéhovah, là, c'est vraiment des gens. Non, non. Ah non. Non, je crois que là, on est vraiment avec les salutistes, avec les méthodistes, avec les darbistes et tous ces gens-là, et puis surtout les pentecôtistes, on est à la frontière. Là je crois que. Évidemment, sociologiquement, certains sociologues non protestants incluent parfois les adventistes. Mais en fait, là, je crois que c'est allé trop loin. Non, je crois qu'à partir du moment où on rejette la Trinité, on n'est plus chrétien, on n'est plus protestant. Les adventistes le font. D'ailleurs, c'est la définition du Conseil œcuménique des Églises. Ne font partie du Conseil œcuménique, donc ne sont reconnus comme chrétiens que ceux qui confessent le Dieu trinitaire. Mais
est-ce que pas en France?
Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, alors là, oui. Ah oui, alors là, si on va au-delà des frontières de la France, c'est sûr que là, il y a bien beaucoup de choses. Oui, là, on trouve les Quakers, on trouve Aux États-Unis, alors là, ça foisonne. Ça foisonne.
Est-ce qu'en Allemagne, les églises évangéliques sont les églises luthériennes ?
Alors, en Allemagne, ce qu'on appelle l'église évangélique, ce sont les églises luthériennes. Oui. Oui, oui.
Qui n'ont pas un statut de concordat ?
Ah si, qui sont concordataires. Si, si. Dans la plupart des États, sinon dans tous. Même chose en ce qui concerne les pays scandinaves. Là-bas aussi, les églises luthériennes sont concordataires. Plus encore que concordataires, c'est église d'État.
Actuellement,
oui, oui. Église d'État, oui. Église officielle. Le roi de Suède en est le chef. Le chef en principe, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Ben oui, je crois que c'est... En fait, c'est typiquement français. Hein. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout ça. Les pentecôtistes se considèrent comme protestants et sont reconnus comme tels, d'ailleurs. En France, ils ont toujours nié cette filiation-là. Ça tient à l'histoire du pentecôtisme en France. Le pentecôtisme qui a complètement échoué dans les milieux protestants. Pour deux raisons. La première, parce que on était extrêmement réservé vis-à-vis des charismes en milieu protestant. On l'est toujours. Enfin, j'entends réformer, etc., à cause du réveil Cévenol. La guerre des Camisards a éclaté à cause des prophéties des prophètes Cévenol. Et s'il y a eu certainement parmi les prophètes Cévenol d'authentiques prophètes, d'authentiques dons du Saint-Esprit, il y a eu aussi des déviations, ce qui est un peu normal dans un contexte de persécution, et en l'absence de tout contrôle, puisque les pasteurs avaient quitté la France après la révocation des dix de Nantes, donc en quelque sorte, les prophètes étaient vraiment livrés à eux-mêmes. Les prophètes ont été les véritables leaders du protestantisme cévenol après la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est eux qui ont appelé à la révolte. L'esprit nous dit d'aller massacrer les catholiques qui sont dans tel couvent. L'esprit, alors quand il capturait un curé, il priait. Alors le prophète disait, l'esprit dit de le tuer. L'esprit me dit de l'épargner. Pof, il était épargné, etc. Enfin, c'était comme ça que ça se passait, quoi. Alors, ça a complètement discrédité, pour des générations jusqu'à aujourd'hui, le mouvement charismatique en milieu réformé. Et beaucoup de blocages en milieu réformé viennent de là. Alors, ça, c'est une première cause. La deuxième cause, ça a tenu de ce que les prédicateurs pentecôtistes n'ont pas toujours été très adroits. Par exemple, Hébert Roux, qui a été observateur au Concile du Vatican, il y a déjà pas mal d'années, presque une dizaine d'années, nous racontait un jour comment lui est donc vieux pionnier des réveils des brigadiers de la Drôme, donc qui étaient des gens qui étaient quand même ouverts aux choses de l'esprit, au moment où il y avait le réveil en Ardèche. Et Scott, le pionnier du mouvement Pentecôte en France, était venu en Ardèche. D'ailleurs, à la suite de son passage, il y a eu le fameux mouvement de charme. Hein. Et donc, il avait rassemblé les pasteurs de la Drôme pour exposer ce qu'était le réveil de la Pentecôte. Alors, il avait exposé, etc. Puis, Héberou nous disait très, très gentiment, quoi, sans aucune hostilité, les pasteurs ont posé les questions qu'ils avaient, qui étaient des objections. En même temps, dit oui, mais alors là, comment est-ce que vous expliquez, etc. Et peut-être il y avait un problème de langage aussi, parce que Scott ne possédait pas très bien la langue française et ne comprenait pas toujours toutes les subtilités. Alors il a pris ce qui était des questions légitimes pour un contrage, quoi. Croyez que les pasteurs réformés s'opposaient à sa prédication. Alors à un moment, il a arrêté la discussion en disant comme ça, de toute façon, vous n'y comprenez rien, vous êtes des gens qui vous opposez au Saint-Esprit, je vais prier. Puisqu'il n'y a pas moyen de s'entendre avec vous, je vais prier. Tomber à genoux au milieu des pasteurs, en levant les bras au ciel, en disant, Seigneur, tu vois, ces gens-là qui sont fermés, obtus, qui sont bêtes, qui n'y comprennent rien, je te demande de les éclairer, de leur ouvrir, etc., pour qu'ils acceptent, etc. Alors, je pense que c'était fini, les autres se sont mis à rigoler, puis c'était terminé, quoi. Alors, il y a eu un blocage qui s'est fait, si bien qu'en milieu protestant, ça n'a pas pris. Ce qui est très dommage, à part le petit groupe de charme qui a continué plus ou moins clandestinement, à pratiquer les dons de l'esprit. Donc, en France, la Pentecôte s'est recrutée parmi les catholiques. Exclusivement parmi les catholiques, presque. Et il y a eu donc une mentalité catholique qui est restée au niveau de ces églises pentecôtistes qui se sont créées. Savoir que, finalement, les églises pentecôtistes, l'église pentecôtiste, était l'église de Jésus-Christ à elle seule. Ça, vous ne trouverez pas ça, par exemple, en Angleterre. Ou en Amérique. Mais voilà, en France, c'est comme ça. Il y a eu cette idée catholique transposée dans le pentecôtisme, hors de nous, hors de l'Église, pas de salut. L'Église, c'est-à-dire l'Église pentecôtiste. Par conséquent, les catholiques n'en parlons pas, c'était bon à routir en enfer. Les protestants, ça n'existe pas. Ou bien ils deviennent pentecôtistes, parce que le pentecôtisme est le nec plus ultra, ou bien s'ils refusent, ben c'est qu'ils refusent de se convertir, c'est qu'ils sont... C'est que ça va pas, quoi. Les baptistes, alors là, c'est encore pire, parce qu'ils sont proches de la vérité, ils ont le baptême, mais ils refusent de devenir pentecôtistes. Ils refusent pas de pratiquer les dons d'esprit, parce que certains font. Quand mon oncle Jules, il y a une trentaine d'années de ça, s'est mis à prêcher le réveil dans son église, là-bas, à Denain, quand il a commencé à prier pour les malades, il a eu la surprise de voir débarquer un beau jour le pasteur pentecôtiste du coin, qui lui dit, « Monsieur, vous savez que vous n'avez pas le droit de prier pour les malades. » Tiens, il dit mon oncle, et pourquoi pas? Parce que vous n'êtes pas pentecôtiste. Et c'était la mentalité. C'est toujours la mentalité, dans une grande, large mesure. Oui, c'est incroyable. Ah ben, automatiquement. Automatiquement. Et donc, ça joue très fort. Et puis, l'idée, finalement, que... étant catholiques, ils étaient anti-protestants en étant catholiques. Et maintenant qu'ils sont devenus pentecôtistes, ils ont gardé les sentiments anti-protestants qu'ils avaient en tant que catholiques. C'est comme ça. Et c'est pourquoi, par exemple, en ce qui nous concerne, Yvon Charles et moi, on a été rejetés comme une greffe qui n'a pas pris parce qu'on était protestants. Mais oui, mais vous riez, mais c'est exactement ça. On était protestants. Et on était la guerre de religion à l'intérieur du pentecôtisme. On était considérés comme des gens suspects et douteux. Et le Cossec, qui était d'origine catholique, avant qu'il accepte d'engager ses gitans dans la fédération protestante, qu'est-ce qu'il a fallu discuter avec lui? Parce que lui aussi, il avait ce blocage psychologique qui jouait. Et d'ailleurs, maintenant, il n'arrête pas, je disais dans son dernier Vie Lumière, de raconter comment ben, il a découvert maintenant des gens qui étaient des frères, qui étaient aussi, qui pouvaient se convertir, qui pouvaient... Enfin, pour eux, ça, c'était une découverte. Ils n'imaginaient pas comment que des protestants puissent être convertis, que des protestants puissent être aussi des chrétiens, quoi. Et je me souviens de la réflexion toute naïve de Jimmy, à la dernière rencontre de la Fédération protestante à La Rochelle, qui disait ça, tout simplement, disait, ben oui, ben nous, vous comprenez, nous, quand on ne croyait pas que vous puissiez vous convertir, on ne croyait pas que vous étiez des chrétiens, puis dans le fond, on a découvert que dans la Fédération protestante, il y a aussi des chrétiens, à peu près comme ça. Il a eu un succès important quand il a dit ça, mais il a dit comme ça, à peu près. Alors, il s'est fait le reflet de ce qui se dit dans le milieu pentecôtiste, avec plus de nuances, ce qui est quand même la pensée profonde d'un grand nombre.